Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane. Que vous soyez un adepte des salles obscures ou que vous vous intéressiez simplement à ce qu'il se passe autour de vous, le bruit de la sortie fracassante d'un film a dû vous parvenir. Le biopic sur Napoléon, réalisé par Ridley Scott. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne l'ai pas vu. Je ne vous propose donc pas une analyse de son contenu que d'autres feront bien mieux que moi, que ce soit dans le registre cinématographique ou historique. Il semblerait tout de même que les historiens spécialistes de la période soient très mitigés, ce qui, personnellement, me refroidit. Peut-être irai-je le voir plus tard, lorsque le soufflet médiatique sera retombé. C'est qu'il souffle fort, très fort même. Que ce soit la presse anglo-saxonne ou française, ou sur les réseaux sociaux, énormément de personnes se saisissent du sujet. Mais on se rend compte assez rapidement que ce n'est pas tant le film en lui-même qui agite la toile, mais bien la personne derrière ce nom, Napoléon Bonaparte. Qui était-il? Au regard du nombre de films, d'ouvrages et de documentaires qui paraissent sur lui depuis plus d'un siècle, on se doute qu'une certaine importance lui est attribuée. Rendez-vous compte, on parle de plus de 1000 films et téléfilms sur Napoléon Ier réalisés entre 1897 et aujourd'hui. Et on peut supposer qu'à chaque fois, le même cirque se reproduit. Efforçons-nous à être le plus objectif possible pour sa présentation, qui en conséquence va être courte. Né à Ajaccio le 15 août 1769, on peut donc en conclure sans trop de risques qu'il était corse. Il poursuit une carrière militaire où il s'illustre comme un grand stratège, puis devient premier consul après le coup d'état du 18 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire du 9 novembre 1799, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le calendrier républicain. Il poursuit son ascension en se proclamant empereur des Français en 1804, conquiert la moitié de l'Europe et est en guerre contre l'autre moitié pendant plus de 10 ans, et après moult rebondissements que je ne vous spoilerai pas ici, il finit exilé sur l'île de Sainte-Hélène au fin fond de l'Atlantique Sud en 1815, où il finit par mourir en 1821. C'est sûr, avec un type pareil, il y en a des choses à dire. Il y en a une en particulier, que j'aimerais évoquer avec vous. La famille politique qui l'a inspiré et qui porte son nom encore aujourd'hui. Le bonapartisme. Ce terme peut regrouper deux concepts différents. Le premier est celui de vouloir recréer un empire français avec à sa tête un descendant de la famille Bonaparte. Quasiment disparu depuis la fin du 19e siècle, celui-ci ne nous intéresse pas. Ce n'est pas lui qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Le second courant défend un état national centralisé à exécutif fort, mais d'essence républicaine, et qui s'appuie sur la consultation régulière du peuple par le biais de plébiscites. Il part du principe qu'il faut tenir éloigné le peuple de la prise de décision, tout en obtenant de lui la légitimité pour gouverner. Il souhaite diminuer au maximum le nombre de représentants élus pour le réduire au minimum, un chef unique qui décide, mais qu'on aurait choisi. En clair, il s'inspire plus de la manière avec laquelle Napoléon a organisé le pouvoir que de la geste romanesque de celui qui l'a incarné. Mais était-ce vraiment nouveau? On peut inclure le bonapartisme dans une branche du césarisme, idée qui elle aussi vient d'un militaire qui a fait couler beaucoup d'encre, le dictateur romain Jules César. Comme Napoléon, celui-ci est parvenu à prendre le pouvoir en utilisant à la fois son charisme acquis par ses conquêtes militaires, mais en s'appuyant sur le peuple contre les élites, dont il faisait pourtant partie. Ça a si bien marché que son fils adoptif, Octave, reproduira la même recette et parviendra lui aussi à prendre le pouvoir, jusqu'à carrément devenir l'empereur Auguste dans une république romaine de façade. On voit donc bien que cette figure de l'homme fort, du chef charismatique, du leader né, capable à lui seul de prendre les meilleures décisions, pour le bien et au nom de tous, n'est pas nouvelle. Mais est-ce actuel? Normalement, vous le savez déjà, mais après le premier, vient son neveu, Napoléon III. Porté au pouvoir par le souvenir fantasmé de son oncle en essayant de s'en inspirer, c'est surtout lui qui ancre le bonapartisme dans la culture politique française durant son second empire. D'autres après lui essaieront de porter cette idée au pouvoir sans y parvenir, comme le tristement célèbre général Boulanger. Mais il en est un qui est arrivé depuis. Un militaire encore, mais pas un conquérant, un libérateur cette fois. Sa victoire lui a donné la légitimité de fait pour gouverner la France à la fin de la guerre, et lui a permis de plébisciter son retour en 1958 avec une constitution taillée pour lui. Le général Charles de Gaulle. C'est la même recette. un pouvoir exécutif fort et un pouvoir législatif faible sous son contrôle. Un chef élu par plébiscite qui dirige tout. C'est la confiance d'un peuple pour un seul homme. On pourrait s'étonner de voir ce bonapartisme si proche de nous, qui semble quand même assez archaïque dans une société qui se targue d'être instruite et souveraine. Les gaullistes ont un argument imparable, à la fois pour le défendre et l'expliquer. Oui, mais c'était le général. Il est vrai que celui-ci n'a pas démérité, que nous lui devons beaucoup, qu'il est arrivé à un moment de grande crise et que son régime politique ne s'est pas mué en Troisième Empire. Pour moi, ce n'est pas vraiment un argument valable. Mais bon, pour le général, admettons. Mais les autres? La Ve République lui a survécu, et sa constitution s'applique à ses successeurs. Est-il justifiable que les autres chefs d'État qui lui ont succédé bénéficient des mêmes pouvoirs que lui? C'est peut-être pour cela qu'un film sur Napoléon génère à chaque fois du tumulte. Cela nous rappelle que le bonapartisme est si actuel que nous vivons dedans. Je peux vous donner l'exemple du bicentenaire de sa mort en 2021, qui a été commémoré par un président de la République qui souhaite lui ressembler. C'est chaque fois l'occasion de nous rappeler que c'est un choix que nous avons fait il y a plus de 60 ans, pour un homme en particulier. Mais je ne souhaite pas vous questionner sur le bien fondé de faire ce choix à l'époque. L'interrogation que pose Napoléon est bien plus contemporaine. Quel système politique voulons-nous? À mon avis, Napoléon est un très beau nom pour un cochon.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.